C'était un petit bout musical pour le temps de rejoindre Patrick White qui, vous le savez, est journaliste, professeur de journalisme, politicologue. Et là, il coiffe le chapeau maintenant d'auteur. Et vous remarquez aussi, on se parle un peu plus tôt que prévu. Il est 8h30. Patrick, bonjour.
Bonjour, c'est mon deuxième livre. Le dernier, c'était il y a 25 ans sur CNN, le phénomène CNN.
C'est vrai. Quand tu as l'expérience derrière la cravate. Mais cette fois, c'est pour parler de la vie d'un peintre royal méconnu. Et là, tu me corrigeras parce que le nom de famille, j'essayais de trouver la prononciation. Henry Daniel Thielke.
Thielke, alors exactement en français, c'est un nom d'origine allemand. Ses parents étaient allemands, serviteurs du roi George III et de sa femme, la reine Charlotte, pendant des dizaines d'années, entre 1770 et 1820. Donc, ils ont aussi travaillé pour George IV. Alors lui, Henri Daniel Thielke, qui est spécial, c'est qu'il est né à Buckingham Palace. Il était là 27 ans. Il a été, ses études en peinture et en art ont été payées par le roi George III, ses outils également. Et il a été dans les meilleures écoles d'art à Londres avec Lawrence Thomas, entre autres donc à la Royal Academy of Arts, qui est la référence mondiale, la British Institution, où il a vraiment appris les bases là, de la gravure, de la peinture et des portraits. Donc, c'était très classique. Il est allé vivre ensuite en Écosse pendant une dizaine d'années, de 1820 à 1830. Et il est débarqué à Québec de 1831 à 1854, où là, il était vraiment présenté comme un peintre royal. Et Louis-Joseph Papineau lui a même donné pendant 5-6 ans un atelier au Parlement de Québec. Alors, c'est tout dire à quel point il a été marquant à Québec, un des cofondateurs de la Société littéraire et historique de Québec, qui s'appelle aujourd'hui le Morin Center, sur la rue la Chaussée des Écossais, anciennement la rue Saint-Stanislas. Donc, j'ai retrouvé 80 de ses peintures, 15 ans de recherche, basées en partie sur des recherches antérieures de deux spécialistes de l'histoire de l'art à l'Université Laval, Annie Fraser et David Carrel. Donc, c'est un devoir de mémoire pour que la vie de ce peintre-là important passe pas entre les cracks, ce qui a été le cas depuis 170 ans.
Clairement.
Et aussi devoir de mémoire pour ces deux chercheurs-là de l'Université Laval là, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui.
Justement, là, vois que tu connais là, sur le bout de tes doigts la vie de ce peintre-là, mais comment t'en es venu justement à t'intéresser au personnage? C'est fascinant, ça aussi, l'histoire qu'il y a derrière cette recherche-là. Tu disais 15 ans de recherche, mais avant, en amont, il y a eu aussi en tout cas, un travail qui a été fait.
Oui, en fait, c'est 50 ans de recherche là, de David Carrel, qui, lui, dans les années 70, déjà creusait pour essayer de faire un article de 5-6 pages pour le dictionnaire biographique du Canada, qui est affilié à l'Université Laval. Cet article-là a été déposé en 1979 et n'a jamais été publié parce qu'il y avait des erreurs factuelles sur la date de décès de Thielke. Donc, ça n'a jamais été publié. Moi, j'ai réécrit tout ça. Et avant de mourir, en 2007, David Carrel m'a donné toutes ses archives sur le peintre. Et il y avait tellement de travail là-dedans, sur des dizaines d'années, plus les recherches d'Annie Fraser. Je me suis dit, on ne peut pas laisser ça là. Il faut que l'article biographique, la notice, sorte pour le dictionnaire biographique du Canada. Ça sort dans les prochains mois. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, quand la famille du peintre me contactait, parce que j'avais mis une partie de mes recherches sur mon blog, patwhite.com, là, la famille me contactait. Ils sont venus à Québec. On a rencontré les gens du MNBAQ, le Musée national des beaux-arts, sur les plaines d'Abraham. On a trouvé des peintures du peintre un peu partout, ici et ailleurs. J'ai rencontré trois branches de la famille au Vermont, New York et en Floride. Et là, vraiment, c'est un devoir de mémoire qui s'est fait sur 15 ans avec d'énormes recherches dans les musées. J'ai fouillé les entrailles de Google. Et évidemment, beaucoup de gens qui m'ont contacté en privé me disant qu'ils avaient des peintures du peintre Thielke dans leur sous-sol, dans leur garage, chez leurs voisins, des amis, des connaissants, même des antiquaires de Québec qui m'ont contacté la semaine dernière. Et j'ai découvert trois autres peintures de Thielke depuis la publication du livre. Donc, c'est un mystère perpétuel. Et je voulais souligner aussi la préface de John Porter. Ça, c'est important parce que lui, c'est un historien de l'art. Je ne suis pas un spécialiste de la peinture au 19e siècle au Québec, mais quand même, j'ai expliqué le contexte, l'importance de l'héritage anglophone de la ville de Québec, parce que Thielke était britannique. britannique est arrivé à Québec après la conquête, où l'élite était anglophone, le maire de Québec était anglophone, la police de Québec était contrôlée par les anglophones et l'église protestante anglicane était très, très importante. La population anglaise à Québec à l'époque, c'était 40%. Puis là, je parle pas des vagues d'immigration importantes, évidemment, irlandaises et écossaises à l'époque. Donc, un contexte historique, hein, il y avait d'autres rivaux, entre autres Antoine Plamondon, oui, qui était le plus grand peintre de l'époque à Québec, qui était en guerre contre Tilk. Il lui a même, en fait, il a tellement critiqué et ridiculisé Tilk dans les journaux à Québec que Tilk a dû arrêter la production de peinture religieuse. Et la force de Tilk, c'était les portraits. Donc, il a fait des portraits des notables de l'élite à Québec, l'élite du Haut-Canada, du Bas-Canada, n'oublions pas que le Québec n'existait pas, le Canada n'existait pas, c'était l'Amérique du Nord britannique, donc il a été un allié de Lord Dalhousie, de Louis-Joseph Papineau, François-Xavier Garneau, entre autres, sur le conseil d'administration de la Société littéraire et historique de Québec, et il a fait des peintures incroyables, entre autres, des membres du village Huron de Wendake, la peinture de 1840, reproduite en 100 000 exemplaires à cette époque-là, en couleur et en noir et blanc, en lithographie. Et ces peintures-là, aujourd'hui, on peut les voir à Québec, dans trois musées, l'Hôtel Dieu de Québec, donc les Sœurs Augustines, le Musée de la Civilisation à Québec, le Musée national des Beaux-Arts du Québec et à Montréal, Musée McCord, Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée du Château Ramsay et à Toronto, le ROM, le Musée royal de l'Ontario, et finalement, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Donc, des œuvres accessibles ici, sur Internet ou en personne, et vraiment, j'ai essayé de boucler la boucle. On ne sait pas trop pourquoi il est venu ici, c'est peut-être l'appel de la détresse, parce que sa carrière n'est nulle part en Écosse. Le roi George III est mort un peu autour de 1820. Ses mécènes également sont décédés. Il s'est marié en 1820. Son père est mort à la même époque. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il est venu en Écosse. On ne sait pas trop pourquoi il est venu au Canada. Mais c'était l'appel d'une vie meilleure, comme il y avait beaucoup de nomadisme à l'époque. Et il a connu aussi, on pense, Cornelius Krieghoff à Québec et à Chicago, où il a passé les 20 dernières années de sa vie. Donc, un peintre important, 81 peintures retrouvées depuis, puis il a fait donc des gravures, des meubles, des miniatures et beaucoup de peintures à l'huile en couleur, des portraits de gens très importants à Québec à l'époque, la famille Sewell, S-E-W-E-L-L, qui dirigeait l'église anglicane, des peintures du maire de Québec, du personnel hospitalier, des cadres supérieurs à l'Hôtel Dieu de Québec et des peintures également, dont une que j'ai achetée d'un des chefs chirurgiens de l'armée britannique dans le Haut et le Bas-Canada. Donc, des peintures d'époque, des portraits de femmes, des portraits d'hommes, de notables, de gens très importants à l'époque. Et là, je parle pas de tous les gens qu'il a peint en Angleterre, dont le roi George III, George IV et la reine Charlotte et tous les enfants du roi également.
Mais oui, c'est Buckingham Palace à l'époque, c'était quoi? Queen's House?
Oui, ça a juste changé de nom. Hein, c'est au même endroit. Alors lui, j'ai retrouvé plus d'une dizaine d'œuvres dans les sous-sols de Buckingham Palace, dans les autres palais royaux dans tout l'Angleterre. Et à quelque part, on a également des traces au British Museum, ou à la National Portrait Gallery à Londres, dans les archives royales, évidemment, et à la British Library. Donc, ça fait pas mal le tour du monde. Hein? J'ai des spécialistes de l'histoire de l'art qui me contactent de la Nouvelle-Zélande, de l'Université McGill, évidemment, du Morin Center à Québec. Et je pense que c'est important de rendre hommage à notre histoire, notre patrimoine culturel. Et évidemment, un peintre qui est passé entre les craques de l'histoire comme ça, on peut pas accepter ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, évidemment, les presses de l'Université Laval ont accepté de publier ce livre-là avec le concours financier de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la fameuse BANQ, la Grande Bibliothèque de Montréal et la BANQ, donc, au Québec. Donc, c'est fascinant, c'est excitant, puis en même temps, c'est rendre justice à quelqu'un qui a quand même été un des peintres les plus importants au Québec au 19e siècle, parce qu'à l'époque, il y avait aussi les Thomas Amiot, Joseph Légaré, Bowman, et évidemment Antoine Plamondon, qui était le king à l'époque.
Oui, ben, qui faisait dans le religieux. Puis c'est ça aussi, hein, c'était beaucoup dans le religieux à l'époque. Puis c'est ce qui fait que, parce que je pense, si je ne m'abuse, qu'en Angleterre, Tilke faisait aussi dans le religieux, mythologique et portrait, mais rendu ici au Canada, au Bas-Canada, en tout cas, il ne faisait que des portraits.
Oui, bien, il y a fait trois peintures religieuses au début, aussi. Entre 1833 et 1838, mais Plamondon a fait une telle campagne de salissage et une campagne xénophobe, hein, parce que Tilke, c'était l'anglais protestant, pas catholique, le gros méchant qui peut-être au début parlait pas bien français. Donc, on l'a présenté comme un étranger, quelqu'un qui venait désacraliser la beauté de peinture, par exemple, sur la Sainte Famille. Il y en a une qui c'est le crucifiement de notre Sauveur, qui est à Québec. Cette peinture-là, elle existe encore aujourd'hui. Puis une autre peinture du baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste. Et là, vraiment, notre ami Antoine Plamondon est allé au bat contre Tilke. Oui, et ça a été des accusations incroyables par l'entremise des journaux de Québec. Et c'est incroyable à quel point ces journaux-là étaient importants à l'époque. Il y avait 5-6 journaux à Québec à l'époque. Et ces archives-là sont à la BNQ aujourd'hui sur le site Internet. Et ça m'a aidé énormément à faire le travail.
Oui, et puis on apprend aussi qu'il a vécu dans Saint-Jean-Baptiste, mon quartier. Oh, mon Dieu!
Oui, ben, il a habité sur la rue Saint-François. Oui. Dans le Vieux-Québec, rue Saint-Eustache, qui est l'équivalent d'une partie de la Côte d'Abraham aujourd'hui. Il habitait sur la rue Saint-Jean, sur la rue d'Auteuil, rue
d'Alousie, beaucoup,
je ne sais plus trop aujourd'hui ce serait où, parce que ce n'est pas la rue d'Alousie du Vieux-Port, c'est place d'Alousie qui est proche de l'Esplanade. Il habitait également sur la rue Saint-Georges, je crois, dans Saint-Jean-Baptiste, mais ça a été débaptisé depuis. Ouais. Donc, on voit qu'il a beaucoup habité proche de la côte du Palais également, donc Vieux-Québec, Basse-Ville de Québec, et il a été chambreur également dans le quartier Saint-Roch chez une certaine Madame Picard, et ces anecdotes-là auraient pu faire un roman, mais je me suis dit, comme on en sait peu sur lui, qu'on connaît pas son caractère, on n'a retrouvé aucun de ses discours ou de ses essais, ses ouvrages, limitons-nous à 160 pages avec des dizaines de photos pour être le plus factuel possible, parce que vraiment ici, c'est une enquête journalistique qui est basée sur les recherches de Annie Fraser, de John Porter, de M. Bellan à la MNBAQ, Daniel Drouin au MNBAQ nous a aidés aussi, puis on a des spécialistes de l'histoire de l'art d'un peu partout dans le monde qui ont collaboré au livre des gens du village Huron de Wendake aussi, donc on a bouclé la boucle et je me dis, j'espère qu'on va avoir une version anglaise du livre pour pouvoir satisfaire les gens qui sont passionnés de l'art en Angleterre, Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, parce que Tilke a quand même vécu dans trois pays. Donc, ça a été un grand nomade qui a eu des soucis financiers, qui a même volé le coffre-fort du Morin Center en 1854, et ça a amené à l'époque, évidemment, son exil aux États-Unis pendant 20 ans. Il y a eu 7 enfants.
Ses enfants sont là-bas, sont encore, ses petits-enfants, là, mais...
Oui, mais en fait, ce qui reste de la famille, essentiellement, ce qu'on sait, c'est le Vermont, la Floride et l'État de New York. Je suis en contact avec eux régulièrement. Il y a possiblement encore des gens au Michigan et à Chicago, mais on ne les a pas retrouvés malheureusement. Et le nom de famille a été changé parce que dans les années 30, avoir un nom à consonance allemande à New York, parce que M. Tilke, il l'appelait Tilke à la fin, ils ont même changé le nom Tilke pour T-I-L-K-I-E après la mort de Tilke aux États-Unis. Et dans les années 30, il y en a un qui était dans le show business à Broadway. Alors, c'est devenu la famille Lowe, L-O-W-E, et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui porte le nom de Tilke dans la famille aux États-Unis pour des raisons évidentes d'ostracisation avant et durant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah ouais. Et il était peintre, il travaillait quand même, de ce que j'en comprends, pas mal, il faisait des petits boulots, mais il était aussi enseignant, là, et puis visiblement, il devait maîtriser le français.
Oui, alors il a enseigné dans une école secondaire anglophone qui existe encore aujourd'hui, QHS Québec High School, qui était située sur la rue Saint-Denis, dans le Vieux-Québec, sur le bord des Plaines d'Abraham à l'époque. Donc, il a enseigné le français, l'anglais, l'allemand, donc on comprend qu'il maîtrisait le français et l'allemand, et il donnait des cours de peinture à prix modique. Il annonçait beaucoup dans les journaux de Québec qui était le moyen de rejoindre les gens, et quand sa peinture sur le chef honoraire du village Huron, Robert Symes, a été diffusée vers 1840, il y a eu une grosse exposition à la galerie de peinture de Thomas Amiot et Joseph Légaré. Ça, c'était sur la rue de Buade, à côté de la basilique. Donc, 50 sous, je crois, pour la visite, et on a vendu 100 000 exemplaires de la lithographie entre 2,50 $ et 5 $, dépendant de la couleur ou du noir et blanc. Et vraiment, on voit quand même qu'on essaie d'aider les gens, de les éduquer à l'histoire de l'art, à la peinture. Et oui, il faisait des petits boulots, là. Il y a plein de choses qu'on sait pas aussi. On sait même pas ce qu'il a fait à Chicago pendant 20 ans. Et on sait également qu'il était membre des Templiers écossais, donc probablement un peu un ordre mystique religieux. Son père était franc-maçon dans une loge à Londres. Son père a fait de la peinture aussi et était serviteur de George III et de George IV. Donc, un mystère continuait à creuser. Et la famille royale, à l'époque, était allemande. La famille royale britannique était allemande à 100%. Et c'est pour ça, on pense que les parents de Tilke ont été embauchés comme serviteurs, même s'ils étaient des nobles d'une famille allemande. Donc, passionnant, intéressant, et on va continuer à fouiller cette histoire-là, comme dit John Porter dans la conclusion. Je veux dire, c'est une enquête qui est en cours, là. Il y a plein de choses qu'on n'a pas résolues au sujet du fameux Henri Daniel Tilke.
C'est ça, j'allais te demander, Patrick, t'as été plongé là-dedans pendant quoi, 15 ans, puis il y a encore des trous, là, si je puis dire, bien que c'est très satisfaisant pour nous lecteurs de découvrir ce, parce que moi je le connaissais pas du tout, de le découvrir complètement. Au moment où on pensait qu'au Canada c'était plutôt tranquille côté artistique, ben finalement il y avait une vie il y avait une vie artistique très foisonnante.
Ouais, il faut pas oublier l'importance capitale de la ville de Québec à l'époque, capitale du Canada, capitale du Bas-Canada, deuxième plus grand port de l'Amérique du Nord à l'époque, avec des centaines de milliers d'immigrants qui sont arrivés à Québec au 19e siècle, alors que la ville comptait entre 40 et 60 000 habitants. Une ville à 40 % anglophone, avec un port extrêmement prospère, un commerce prospère, dirigé par une élite anglophone, une église catholique romaine prospère, avec une église anglicane qui bâtissait beaucoup d'églises également. Et Tilke, ben, lui, a été limité à la production artistique pour l'élite anglophone. Il a été un peu rejeté, ostracisé par Plamondon et évidemment une certaine élite parce qu'il n'était pas catholique et francophone. Donc, il a vécu dans l'adversité, autant à Londres qu'en Écosse, qu'à Chicago et Québec. Et je me dis, chapeau Henri Daniel Tilke, on ne va pas t'oublier. Quand même un des plus importants portraitistes au Canada, au Québec, au 19e siècle, qui a instauré les règles artistiques classiques du portrait, de la gravure et aussi des peintures religieuses qui méritent d'être redécouvertes aujourd'hui à travers peut-être le Musée de la Civilisation à Québec, un antiquaire qui m'a contacté, dont on en parlera peut-être un jour, et d'autres peintures disponibles aux Sœurs Augustines de l'Université Laval, où on a une peinture de l'ancien maire de Québec à l'époque, Mr. Morin, qui a donné son nom Morin Center ou Morin College, et aussi une peinture qui montre un des chirurgiens importants, le Dr. Farg, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, il était vraiment collé à l'élite, même le fondateur de Joliette. Il y a une peinture qui a été faite par Tilke, d'autres personnages importants, je l'ai dit. Thomas Farg, la femme du révérend Sewell, qui était le chef anglican, et la peinture de Joseph Morin, docteur et aussi maire de Québec à l'époque. Donc, on voit qu'il a ratissé large. Son baptême du Christ par Saint-Jean-Baptiste, c'est au Musée de la Civilisation. J'imagine qu'on va pouvoir le voir un jour. Et on a aussi des portraits de femmes inconnues, d'hommes inconnus et de familles écossaises qui sont venues vivre à Québec après l'Écosse autour de 1830 avec la famille de William Burns Lindsay, des gens qui avaient des connexions avec Georges Étienne Cartier. Il a fait des portraits aux États-Unis de gens très proches d'Abraham Lincoln, donc vraiment connecté toute sa vie à la famille royale britannique, où il a fait des peintures, des gravures, des personnages religieux importants dans le cercle royal à l'époque, comme tu as dit, des gravures classiques gréco-romaines dans ses premières années, où c'est très stylisé et extrêmement classiciste, si on peut dire. C'est vraiment des travaux scolaires, mais il a gagné des médailles à la Royal Academy, à la British Institution, et aussi des médailles à la Société littéraire et historique de Québec. Et de ce point de vue-là, les recherches de Louisa Blair, une historienne anglophone de Québec, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'elle a fait un livre sur l'histoire, donc, du Morin Center et de la Société littéraire et historique de Québec, qui a été fondée par Lord Dalhousie, un grand mécène à l'époque. Et tous ces gens-là ont apprécié Tilke, et surtout Louis-Joseph Papineau, qui a été été un mécène et un philanthrope en lui donnant un atelier de peinture au Parlement de Québec de l'époque.
Rien,
la Chambre d'Assemblée, qui était au parc Montmorency, et le voisin immédiat du studio, Antoine Plamondon, d'où la guerre entre les deux hommes
qui a duré
plusieurs dizaines d'années.
Ça ferait un bon film. Puis dis-moi, il y a quand même une peinture importante qui a marqué sa vie, qui fait d'ailleurs la couverture de ton livre,
oui.
Les Hurons de Lorette. Est-ce qu'on peut la voir, cette peinture-là, soit dans un ou l'autre de nos musées?
Oui, il y a une lithographie au Village Huron, au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts du Québec, à Québec. Je ne sais pas s'il est exposé, mais on peut le demander. Le livre va être en vente également, évidemment. C'est aux presses de l'Université Laval, sur le site, sur leslibraires.ca, à la boutique du Musée national des Beaux-Arts du Québec et un peu partout dans vos librairies locales à partir de cette semaine. Alors, cette peinture-là, 1840, c'est une cérémonie pour l'élection d'un chef honoraire au Village Huron de Wendake. Le chef honoraire, donc, c'est juste pour l'honneur, c'est Robert Symes, qui était le chef de la police de Québec. Il a tenté de se présenter à la mairie de Québec contre Thomas Légaré. Il a perdu ses élections.
Ah oui.
C'était quelqu'un qui a combattu la rébellion des Patriotes, qui était anti-Canadien-Français. C'est lui qui a remporté le contrat. C'est lui qui a fait la peinture de cette cérémonie-là d'assermentation d'un chef honoraire au Village Huron de Wendake. 200-300 personnes à la cérémonie. Une peinture d'époque, où aujourd'hui on dirait appropriation culturelle.
Bon.
On les voit avec la fameuse ceinture fléchée.
Oui, oui.
Canadienne-française,
bon.
Des hautes formes. C'est un peu caricatural, mais c'est un portrait d'époque
c'est
de ce
l'époque.
Qu'était le Village Huron. Et sur la peinture, on voit évidemment les Picards du Village Huron de Wendake, les Siwi, les Durand, les Gros-Louis, la famille Vincent, évidemment, qui contrôlait avec la famille Bastien le Village Huron de Wendake. Et ces familles-là existent encore aujourd'hui. Donc, cette peinture-là, on peut la voir également au musée McCord à Montréal, au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et finalement, l'original, c'est au château Ramsay dans le Vieux-Montréal, à côté de Place Jean-Cartier. Donc, oui, c'est accessible. Et également dans les musées, comme j'ai dit, à Toronto et à Ottawa. Donc, peinture phare de sa vie. 100 000 exemplaires exposés à New York, évidemment à Londres et à la Galerie de la peinture de Québec, là, sur la rue Buade.
Et je suis curieuse, sur une note personnelle, Patrick, dis-moi, ton livre est publié, mais est-ce que le personnage t'obsède encore, étant donné qu'il y a des pans de sa vie qui ne sont pas encore connus? Est-ce que tu es encore là-dedans ou tu as tourné la page?
Ben, je suis en train de tourner la page, mais c'est sûr que d'avoir redécouvert 3 peintures dans les dernières semaines, ça donne un petit boost d'adrénaline, mais c'est le sentiment du devoir accompli,
qu'on a
fait ce qu'on pouvait faire du mieux qu'on pouvait. S'il y a une réimpression ou une deuxième édition, on va pouvoir ajouter des détails sur les 3 peintures découvertes dans les dernières semaines, dont une à Québec et un autre qui va être à l'encan bientôt, mais je pense que c'est un devoir de mémoire accompli. Ça continue à m'obséder, mais je dors très, très bien la nuit.
Oui, bon, ben tant mieux. Et c'est très bien fait, ce livre-là, Patrick, bravo. Beau travail.
Laval, les révisions linguistiques, évidemment, les droits pour les photos que je suis allé chercher,
ben, c'est
ça a
ça,
coûté
on
cher et
les
ça a été compliqué, mais ça valait vraiment la peine d'avoir un livre en couleur avec des dizaines de photos pour aérer le texte sur un sujet qui pourrait paraître aride à la base, à quand même un peintre méconnu, inconnu, né en 1788, mort en 1874. On ne valorise pas aussi beaucoup l'histoire du Québec, l'histoire anglophone de la ville de Québec et évidemment l'histoire de la peinture et l'histoire de l'art au Québec. Donc, je pense qu'au moins, il y a un devoir de mémoire qui va se faire et j'espère que les gens vont accepter ce cadeau-là, qui est un cadeau du ciel à quelque part avec les liens avec la famille, les héritiers de Till qui ont reçu leur copie cette semaine et évidemment les gens un peu partout ailleurs dans le monde qui ont manifesté de l'intérêt dans les 15-20 dernières années pour ce peintre-là qui méritait d'être connu finalement.
Tout à fait. Bravo et félicitations.